t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Nsingi, a été déchu de ses postes jeudi 5 octobre par les députés provinciaux. Il lui est reproché notamment une opacité dans la gestion financière. Par ailleurs, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Ramazani Shadary, a suspendu lundi 2 octobre les plénières des assemblées provinciales du Tanganyika et du Kasaï suite aux incidents graves. Aux incidents survenus lors de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre dans ces assemblées provinciales. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081-890-4969 et 0997-06-4969 pour vos interventions en direct. Mais les débats se poursuivent également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Nico Kalambay est à la réalisation de cette émission mise en onde par Jean-Claude Ntiala. Pierrot Lamégie vous la présente sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Les hauts et les bas dans les fonctionnements des assemblées provinciales au centre de notre échange. Plusieurs présidents des assemblées provinciales ont été menacés et celui de Kinshasa a été déchu par ses pairs. Lui, il rejette la décision en saisissant la justice. Mais par ailleurs, deux assemblées provinciales ne savent pas se réunir, celle du Kasaï et Tanganyika, à cause des incidents qui ont émaillé l'ouverture des sessions du mois de septembre. Au Kasaï, ces trois anciens députés provinciaux qui ont voulu monter à l'estrade pour menacer les membres du bureau qui ont été déguerpis par les éléments de la police, et dans les Tanganyika, c'est la bagarre où les députés sont revenus aux mains. Comment commentez-vous cette situation au sein des assemblées provinciales et la question de la libre administration des provinces, fonctionnement des provinces avec la décision du vice-ministre de l'Intérieur? Toutes ces questions sont abordées, ces aspects sont abordés dans cet échange, dans parole aux auditeurs. Professeur Ignace, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR, merci pour la parole que vous m'accordez. D'entrée de jeu, je constate que dans notre pays, la démocratie est en train de s'installer petit à petit, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'en comprennent pas le fonctionnement. Moi, je pense que quand on parle de démocratie, on doit, entre autres, penser au respect des textes qui sont établis. Mais il se pose ici des problèmes de connaissance, des limites de compétences entre les différents organes qui gèrent l'entité, le pays ici. Parce que plusieurs fois, vous allez vous rendre compte qu'il y a empiètement de compétences, il y a des conflits entre les compétences exclusives du pouvoir central et celles de provinces. Il y a aussi un autre problème, quand vous le remarquez, c'est la séparation des pouvoirs. Il me semble aussi que quand vous remarquez le fonctionnement de nos assemblées, les plénières telles qu'elles se sont tenues, le respect des règlements d'ordre intérieur, l'ordre du jour, les procédures, vous allez comprendre que quelque part, il y a aussi une mémoire, la politique, entre dans la législation et la législature, au niveau du pouvoir législatif, et ce qui pose toujours des problèmes. Tantôt, on doit aller à la Cour pour demander, la Cour constitutionnelle pour demander interprétation de lois des gens que nous avons élus qui sont supposés connaître les lois qu'ils élaborent eux-mêmes. Ça pose aussi un autre problème. Je vais parler de la problématique du choix de nos représentants. Là aussi, nous devons être très regardants. C'est que les critères qui sont mis en place ou que les électeurs prennent pour élire leurs représentants posent des problèmes. Et ce qui fait qu'en prenant n'importe qui, cela a aujourd'hui un impact très, très, très négatif sur le rôle que doivent jouer ses élus dans leur chambre respective.
Voilà. Mais professeur Ignace, si on revient dans l'histoire des tenues de plénière dans les assemblées, on a vu dernièrement en Ouganda une bagarre qui a éclaté au sein de l'Assemblée nationale. Cela est arrivé en Afrique du Sud, cela est arrivé au Brésil, cela est arrivé en Ukraine, à travers le pays, on a vu des députés en venir jusqu'aux mains. Mais si nous revenons, par exemple, dans notre pays, rappelons quand même que depuis du temps de l'ancien ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, en passant par l'Évariste Bochab, il y a eu quand même ces problèmes de suspension des activités des assemblées provinciales, et voire même suspension ou bien l'annulation de certaines décisions des gouverneurs de province. Mais et pourtant, que ce soit la Constitution, que ce soit la loi sur la libre administration des provinces, délimite effectivement les responsabilités de chacun. Et chaque fois, ça a été dénoncé que le ministre de l'Intérieur ne peut pas interdire à une assemblée de fonctionner parce qu'il y a tiraillement ou il y a eu des cas d'insécurité, mais cela revient plusieurs fois. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un problème de déficit dans la maîtrise même de cette question de la décentralisation?
Effectivement, il y a un sérieux problème. Généralement, ici, chez nous particulièrement, vous aurez l'impression que les assemblées provinciales sont les représentations ou certaines petites entités sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Ce ne sont pas des représentations du ministère de l'Intérieur, en fait, les assemblées provinciales. La loi est très claire là-bas, malheureusement, ce sont des choses que l'on constate. Ce que vous évoquez ici, en parlant de bagarre à gauche, à droite, j'ai eu à le relever. Et c'est aussi le problème, vous consolidez pratiquement la position que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que le choix de ces gens-là que nous considérons comme nos représentants et que nous appelons peut-être paradis, déshonorables, parce que c'est par principe qu'ils devaient être comme cela, mais malheureusement, on choisit quelqu'un parce qu'il est populaire, parce qu'il a des grandes fermes, parce qu'il a des affinités ou sur des bases tribales, la personne n'a pas la maîtrise, n'a pas une certaine philosophie, n'a pas d'ambition d'aller représenter les gens. Et quand elle arrive là-bas, elle s'embrouille, elle se retrouve pas. Imaginez ce genre-là de bagarre, c'est un manque de culture démocratique, parce qu'en démocratie, il y a la culture de la tolérance, vous voyez, c'est aussi un problème. Donc on doit être très regardant. Mais somme toute, quand vous regardez le fonctionnement de nos assemblées, il y a eu un peu de folklore, passez-moi le terme, c'est qu'il semble qu'il y a un déficit majeur dans les actes que posent nos représentants, que ce soit au niveau national ou au niveau des assemblées provinciales. Je prends l'exemple de l'usage des motions. On y va à tort et à travers et ça crée toujours des problèmes. Voilà peut-être comment moi je vois les choses.
Merci.
C'est qu'il faudrait un nouveau souffle parce qu'on commence à comprendre que nos députés ayant largement dépassé leur mandat, ils sont quelque peu fatigués. Il faut peut-être les remplacer. Voilà comment moi je vois les choses.
Merci beaucoup, professeur. Mais il y a cette question de la culture politique, vous l'avez dit. Merci de nous avoir appelé de Colosi. Il faut arriver vraiment à une culture démocratique, une culture de tolérance. Mais il y a aussi cette question de respect des textes et limites des compétences de chacun. C'est par là que nous allons rebondir avec vous, Alain Bolodua. Vous avez dit sur la page Facebook qu'il y a cette question qui touche aux députés provinciaux en tant qu'un individu, dans leur attitude, dans leur comportement. Mais il y a aussi cette question de l'intervention régulière, on peut dire ainsi, du ministère de l'Intérieur dans la suspension des activités des assemblées provinciales, ce qui soulève un grand débat aussi sur le plan juridique. Et quel est votre commentaire, Alain Bolodua?
Bonjour Radio Capi, bonjour professeur, bonjour à tout le monde. Bon, je crois que le professeur a eu à mettre en exergue certains problèmes que nous rencontrons. Il vous souviendra que nous avons opté pour le régionalisme constitutionnel dont le maître mot reste la décentralisation. Qui dit décentralisation dit démocratie à la base. Et le constituant, on pensait que en redonnant ou en transférant un certain nombre de compétences aux provinces, cela va aller faciliter l'éclosion ou carrément les développements, parce que on prend les ETD comme des centres d'impulsion au développement. Mais malheureusement, on se rend compte que les institutions mises en place pour mettre en application cette vision du constituant connaissent des difficultés par le simple fait que les insuffisances des acteurs en présence se heurtent à cette vision et ça fait en sorte que nous puissions retarder le développement tant souhaité par tout le monde. Mm-hmm. Lorsque nous prenons la configuration au niveau de province, nous avons un gouvernement qui a la charge d'exécuter, il y a un organe délibérant qui a la mission de valider le programme du gouvernement, émettre des idées pour le fonctionnement, mais on se rend compte que les individus qui constituent ces institutions ont des difficultés à s'adapter au fonctionnement actuel de l'État. Ce qui fait que ça alourdit la machine et ça amoindrit même la capacité ou l'efficacité, même l'efficience dans les actions. J'estime de mon point de vue que lorsqu'on avait initié ces grands projets, cette grande réforme, on n'a pas tenu compte de la dimension anthropologique. Parce que la plupart des cas que nous avons enregistrés, ça démontre à suffisance que ce sont les individus qui posent problème. Je prends le cas de deux provinces, le cas de l'Équateur et de Choapa. Il y a les députés qui considèrent que le fait que le gouvernement provincial soit leur émanation, eh bien, tout député a le droit de marcher sur les compétences du gouverneur, de faire ce qu'il veut, de s'imposer par le simple fait qu'il a le pouvoir, n'est-ce pas, d'interpeller un gouverneur, et ça crée un désordre. Mm-hmm. Et ce désordre apparaît de plus en plus organisé. Et c'est ce qui fragilise même le fonctionnement.
Merci.
Voilà. À l'Équateur, il y a un gouverneur qui vient de partir. Mm-hmm. Mais les raisons fondamentales qui ont fait partie, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas encore mises en évidence. Il y a aussi au niveau de Choapa, ça fragilise. C'est que moi, je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas que, partant de cette réalité, bien que le gouvernement est appelé pour, par souci de cohésion et par souci du bon fonctionnement des institutions, à prendre des mesures, mais cela ne doit pas aussi être pris de manière intempestive, au risque d'occasionner une autre situation fâcheuse, mais cette fois-là, au niveau du gouvernement central. Parce que lorsque le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, commence à se gérer sur des questions sensibles au niveau de province,
oui,
eh ben, il risque de devenir un gouverneur général. Et en tant que gouverneur général, il n'a aucune responsabilité en termes de redevabilité à la population.
Merci.
Parce que les gouverneurs sont élus, les députés provinciaux sont élus, et naturellement, lui n'est pas élu. Quand il va s'ingérer, ça va créer des frustrations.
Merci. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Alain. D'ailleurs, vous avez insisté beaucoup sur le problème des difficultés d'adaptation des individus au système, hein, tellement que c'est un grand chantier, la décentralisation, tellement qu'il est mis en place, la décentralisation. Beaucoup de gens ont les difficultés à pouvoir s'adapter et suivre. Et souvent, comme vous l'avez dit, les gouverneurs sont élus, les députés provinciaux sont élus, et que le ministre de l'Intérieur qui est nommé, quand il prend une décision qui touche au travail exécuté par les élus, il y a voilà autant de frictions. Alors que chacun arrive à comprendre les rouages de la Constitution et de la loi sur la libre administration de province. Merci beaucoup, Alain. Al-Boumbachi, Martin, vous êtes avec nous sur les antennes. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Martin.
Nous sommes quand même dans un état de droit où doit régner la primauté de la règle des droits. Je ne sais pas si M. le vice-premier ministre s'est fondé sur quel test pour prendre une telle décision. Il doit quand même respecter le principe de séparation des pouvoirs. Ces députés ont les mots du peuple congolais. Cependant, cette décision est de nature à offenser le peuple congolais. En ce qui concerne la déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je suis vraiment désolé de voir les députés qui sont au pouvoir depuis 2006 violer les règlements d'ordre intérieur en siégeant à l'absence du président alors que ce dernier n'est pas empêché. Il faut voir même les griefs qui lui sont reprochés, notamment la question là liée aux finances. Est-ce que c'est le président qui gère les finances de l'Assemblée? Moi, je ne sais pas. Je pense que c'est un problème d'intérêt politique. La majorité présidentielle doit comprendre que ce pays n'est pas une propriété privée d'un groupe d'individus. Nous avons dit.
Voilà, merci beaucoup Martin. Vous estimez d'abord pour le cas de Kassai et de Tanganyika que le vice-premier ministre s'est-il basé sur quel principe juridique pour suspendre les activités de ces assemblées provinciales jusqu'à nouvel ordre à Kinshasa? La question pour vous, c'est le fait que les députés n'aient pas respecté leur règlement intérieur en siégeant à l'absence de l'incriminé alors qu'il y a les questeurs, celui qui gère les finances de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup, Martin. Marie-Paul, sur la page Facebook, estime que le fléau des dirigeants africains reste le phénomène individu-État. L'incapacité pour les hommes politiques à dissocier leur rôle en tant que dirigeants à leur vie propre sont les mots qui détruisent la gouvernance des entités. Aussi longtemps que les dirigeants ne comprennent pas qu'il y a une différence entre mode de vie individuel à celui public, le désarroi ne cessera de planer sur le pays. Il faut fonder et revenir aux fondamentaux de la gestion des affaires publiques de l'État et appliquer le principe. Franck, merci de nous avoir rejoints à ce niveau du débat. On vous écoute. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés. Bonjour à ceux qui vont suivre en émettant leur point de vue. Mm-hmm. Oui, merci. Je fais d'abord mieux l'argumentation du prof. Ignace Ndala, en ajoutant que depuis un certain moment, ça bouillonne au sein de nos assemblées provinciales, tout comme aussi au sein de l'Assemblée nationale. Et dans la plupart des cas, on se rend compte que si ce n'est pas le gouverneur lui-même qui est visé, ça peut être un de ses ministres ou et peut-être l'ensemble du bureau qui peut aussi être déstabilisé. Et par rapport à ce qui se passe, pas seulement à Kinshasa, mais dans toutes nos assemblées, nous devons nous poser des séries de questions. D'abord, nous devons reconnaître que tout ce qui se passe là, ça signifie, ça traduit déjà un certain nombre de malaises vécus par les citoyens et qu'il y a des gens qui cherchent à étouffer ce genre de malaises qui se vivent. Puis, quand on voit les différentes interférences de certains membres de l'exécutif par rapport au fonctionnement de certains pouvoirs, la question qu'on se pose, c'est la question du respect des textes. Est-ce que nous sommes seulement régis par les sauts d'humeur et les calculs politiques ou ce sont d'abord des textes qui régissent un pays qui se dit démocratique, respectable et moderne? Et quand déjà nous savons que les lois de la République sont appliquées selon les sauts d'humeur, moi personnellement, ça ne m'étonne plus qu'on connaisse tout ça. Donc, en un mot, c'est déjà le retour à l'état de nature. C'est la loi des plus forts qui cherche à prendre la place de la loi normale. Alors, comme il y en a qui croient qu'ils ont le monopole de tout, ils peuvent inverser n'importe quelle situation à leur faveur. Et c'est ce qui rend un peu la situation plus difficile parce que les lois sont traduites, les lois sont interprétées selon les calculs. Et la même loi peut être interprétée de la même manière selon les différentes circonstances. Et ça devient un peu difficile à gérer. C'est comme ça que le peuple congolais doit vraiment se lever pour dire non à ce système parce que on avait pensé avancer, mais quand on voit ce qui se passe de nos jours, c'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte parce que c'est parfois les mêmes individus qui contestent un pouvoir quand ils se rendent compte que c'est pas leur faveur, mais les jours après, ils cherchent encore à s'adresser par rapport au même pouvoir quand ils cherchent à tirer des bénéfices par rapport à leurs attentes. Et finalement, on se demande, la Constitution est encore là pour quoi et pour qui et qui doit vraiment veiller pour l'appliquer. Puis à nos honorables députés, vraiment là, nous devons leur dire que le peuple ne leur avait pas demandé d'aller seulement voter pour leur ventre. Donc, ils doivent vraiment d'abord travailler pour l'intérêt suprême de la nation. Et de plus en plus, on se rend compte que ce soit à l'Assemblée nationale comme dans des assemblées provinciales, avec tout le respect que nous leur devons, on se demande s'ils sont encore vraiment conscients et responsables de la mission que le peuple leur a donnée et des attentes de ces mêmes peuples. Parce que pour certaines motions, on peut même se rendre compte que c'est une contradiction, vraiment une contradiction qui est visible et plausible aux yeux de tout le monde, mais on va voir un honorable député qui passe là pour casser. Et quand on voit ce qui se passe là, on se demande, on se moque de qui? On se moque de ce même peuple qui vous donne ses mandats pour aller les représenter. On se moque de ce même peuple qui, en principe, est le patron de l'honorable député, ou le député, l'honorable, se moque vraiment de qui. C'est triste ce qui est en train de se passer chez nous. Et je crois que nous sommes en droit de le dire sans maîtrise, sans passion, sans verser dans des futilités, mais dire exactement ce qui se passe par rapport à la bonne marche de notre pays. C'est vraiment triste. Nous sommes rentrés plus bas que ça. Et c'est vraiment triste pour notre pays.
Merci, merci beaucoup, Franck. Voilà, merci.
C'est démocratique parce que par rapport à ce qui se passe là, il n'y a plus rien de démocratique au Congo. C'est peut-être une dictature voilée ou bien de la jungle. C'est vraiment triste.
Merci beaucoup, Franck. Dans votre argumentaire, vous insistez beaucoup sur la question du respect, l'application des lois. Éviter d'appliquer les lois selon les sauts d'humeur, selon que la loi est favorable à vous. Et tout doit être fait en tenant compte de l'intérêt supérieur de la nation. Il faut qu'on arrive à respecter la Constitution, la loi sur la libre administration des provinces pour éviter que les uns et les autres ne puissent agir pour répondre uniquement à leurs intérêts. Chico, merci d'être avec nous de Kananga. Bonjour, Chico.
Oui, bonjour, M. Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs au district de la radio de la paix.
Ok, on vous écoute, Chico.
Oui, je pense que comme je l'ai porté sur votre Facebook, M. Pierrot.
Dommage, on a perdu Chico qui parlait tout à l'heure de Kananga dans la province du Kasaï central. Amos, lui, est à Bukavu. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Amos et bienvenue dans le débat sur les antennes de Radio Capi dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors nous faisons, nous analysons cette question de la suspension des activités des deux assemblées provinciales, mais aussi les déchéances du président de l'assemblée provinciale de Kinshasa. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça?
Justement, Pierrot, vous savez que le peuple congolais jusque-là commence à comprendre ce qui ne va pas au pays. Parce que depuis 2006, nous avons élu les députés provinciaux et le peuple s'attendait à l'amélioration de ses conditions de vie. Et là, je vois l'eau, l'électricité, la sécurité, les routes, beaucoup de choses, là, même l'éducation. Malheureusement, les députés provinciaux qui sont les représentants de la population, il semble que ces gens n'ont pas pu faire rien, le travail qui est le leur. Et on a vu des députés qui n'ont rien compris de ce qu'ils devaient faire. Je voulais juste parler d'abord de ma province au sud de Kivu. Depuis 2006, nous sommes l'unique province qui vient d'élire le quatrième gouverneur. Mais jusque-là, rien ne change dans la province. Dans tous les domaines de la vie, rien ne va. C'est-à-dire la province est par terre. Et après une longue analyse, nous avons compris que l'Assemblée provinciale, à travers son bureau, est co-auteur de la mauvaise gouvernance dans la province. Parce que vous allez comprendre que nous avons anticipé le fait que chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement qui est élu au niveau provincial, on voit une certaine relation entre le bureau de l'Assemblée, entre certains députés et le nouveau gouverneur entrant. Mais à un moment donné, quand le gouverneur ne parvient plus à répondre aux intérêts égoïstes de ces députés, d'emblée, ces députés sautent sur une motion et parviennent à déchoir le gouverneur. Au moment, et les députés aussi, ne font absolument rien. Ignorant que c'est l'Assemblée provinciale qui est l'organe délibérant, c'est l'Assemblée provinciale qui est l'autorité budgétaire, et c'est cette Assemblée qui doit contrôler l'exécutif pour que l'exécutif parvienne à travailler pour l'intérêt de la population, ce qui n'est pas le cas. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes dit, nous voyons que c'est ridicule qu'on a actuellement. La province de Kivu, l'Assemblée provinciale est responsable à travers son bureau. Et c'est ainsi que les forces vives et sociales de la province viennent de lancer un mémorandum exigeant la défaillance du bureau de l'Assemblée provinciale, que nous avons qualifié d'incompétent, mais aussi de très faible par rapport à la gérance de la province. Même le président lui-même de l'Assemblée, il est impliqué personnellement même dans la spoliation des terrains ou des espaces publics, ce qui est très grave. C'est le même cas dans d'autres provinces. Vous allez comprendre que dans toutes les provinces, aujourd'hui, il y a mauvaise gouvernance parce que les assemblées que nous avons n'ont pas su comprendre le travail qu'elles devaient faire. Elles sont là justement pour les intérêts égoïstes, exiger des moliments, même les contrôles parlementaires. Ces assemblées ne font pas comme ce qu'ils se doivent. On voit que ce sont des gens qui se vendent à vil prix.
même pour ceux qui est de quand ils sont en vacances parlementaires, au lieu que ce député descende dans leur base, s'enquérir des problèmes que traverse la population, ils ne le font pas, au lieu qu'ils aient dans leur base, ils sont les repères, ils restent dans des loisirs. Pour dire que, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de demander.
Alors, vous l'avez dit, Amos, qu'il faudrait aujourd'hui que les députés provinciaux arrivent à connaître la vraie valeur, n'est-ce pas? D'abord, la valeur de la fonction et la valeur juridique de leur responsabilité, ce qu'ils doivent faire pour la population, parce qu'ils ont été élus pour ça. Et vous vous rendez compte aujourd'hui, que ce soit à Bukavu ou ailleurs, à Bukavu d'ailleurs, où on a connu 4 gouverneurs depuis 2006, ou bien dans d'autres provinces, il y a le Kasaï central qui appelait le Kasaï occidental dans les temps, avec aussi 3 gouverneurs. Il y a eu l'ex-province de l'Équateur, l'ex-province orientale. Voilà, les choses ont pu bouger comme ça. Et vous estimez que derrière tout ça, il y a une question de l'ignorance, de la responsabilité des députés provinciaux, le rôle juridique qu'ils ont à jouer dans la décentralisation. 081-800-49-69-09-97-06-49-69 pour intervenir en direct dans cette émission.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Chico, merci. Je crois que la ligne s'est améliorée entre Kinshasa et Kananga. Bonjour.
Effectivement, bonjour, je vous écoute maintenant.
Voilà, allez-y. Vous étiez en train d'intervenir pendant qu'on a perdu la ligne. On vous écoute.
Oui, je disais comme je l'avais posté dans votre page Facebook, M. Kiro, c'est avec beaucoup d'inquiétude, que je donne mon point de vue vis-à-vis au comportement que nos députés affichent durant le temps. Permettez-moi de le dire. Parce que si vous voyez aujourd'hui beaucoup d'émotions qu'on initie contre les présidents de l'Assemblée pour ne pas peut-être sur les cas des gouverneurs. Les motions sont fondées, Pierrot. Mais il y a un problème de procédure. Je pense que c'est avec un retard que j'ai suivi votre émission. Mais je pense que les autres l'ont déjà dit. Comment pouvez-vous déchoir quelqu'un tant qu'il n'a pas donné ses moyens de défense, M. Pierrot? Parce que le problème aujourd'hui n'est pas d'être contre une personne, mais de respecter quand même les principes de l'administration. Accepter que je le dise. On peut pas initier une motion de censure ou une motion de déchéance contre un député ou contre un président de l'Assemblée ou contre un gouverneur parce qu'on est pas, on est contre lui ou parce qu'on nous a instruit quelque part. Si on fait de telle façon, je trouve que là, on respecte pas la procédure. De toute façon, on va d'abord permettre à la personne de donner ses moyens de défense et par après, on va voir ce qu'il y aura comme décision. Ça, c'est pour les cas de mention de censure contre les candidats de l'Assemblée. Et pour attaquer la deuxième situation, les cas de la suspension
des plénières dans les deux assemblées provinciales, oui.
Les deux assemblées provinciales, comme vous venez de le dire, les cas de Kasaï et Tanganyika. Moi, je trouve que s'il y a du désordre, s'il y a quelque chose qui ne permette pas peut-être à faire bien avancer les choses, ou bien qui peut chercher les désordres de l'Assemblée, je pense que le vice-premier ministre de l'Intérieur, a cette capacité, a cette compétence d'interrompre ou bien de suspendre. Mais ça doit faire mal au cas où le ministre trouve peut-être que, parce que les députés font peut-être des choix, les gouverneurs par rapport à la mauvaise gestion ou bien par rapport à la mauvaise façon de travailler, à ce moment-là, si le ministre prend une telle décision, je pense qu'on ne peut pas apprécier ou bien on ne peut pas encourager. Parce que si on trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, De toute façon, on ne peut pas laisser la personne en train de continuer, bien, en train de
Que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Chico. Merci beaucoup, Chico. Vous avez posé la question là. D'abord, en termes de le non-respect des procédures en ce qui concerne ces différentes motions, que ce soit contre le président de l'Assemblée provinciale ou que ce soit contre le gouverneur au Kassai central. Dernièrement, le gouverneur a été déchu par l'Assemblée provinciale. Et vous estimez que dans beaucoup de cas d'ailleurs, hein, les incriminés ne sont pas souvent là. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de se défendre après. La motion est votée à l'unanimité et c'est un problème de procédure. Mais bon, et quand le même député se retrouve dans une situation inconfortable en termes de comportement qui touche à l'ordre, et alors là, vous estimez que le vice-premier ministre a tout droit de pouvoir, a plein droit de suspendre ses assemblées provinciales. Merci beaucoup, Chico. De tous ces points de vue, vous êtes à Kananga. Ernest, vous êtes à Matadi. Alors, plusieurs fois, les motions ont été votées dans les conditions où les incriminés ne sont pas présents. Et puis après, il y a des tiraillements, il y a des problèmes. Des fois, les présidents des assemblées ont été rappelés à Kinshasa à la veille de l'examen de certaines motions. Et est-ce qu'on pourrait joindre ce que disait tout à l'heure professeur Ignace? Il y a encore des problèmes sérieux d'apprentissage dans le processus de décentralisation que nous avons amorcé, Ernest.
Oui, merci. Vous avez tout à fait raison. Vous savez que je voudrais un peu partir de l'expérience comparée de notre Assemblée provinciale du Congo central. Vous savez que la première Assemblée provinciale que nous avons connue a été dirigée par l'honorable Kimasi, ambassadeur. Mais vous savez, les questions sont sorties de cette Assemblée. On a décidé, on l'avait empêché de ne pas tenir la rencontre dans l'Assemblée, dans la salle, et finalement c'est pour faire... l'hôtel Maya, sous l'arbre, dans un hôtel. Et les carreaux d'écoute pour lui, et il est parti. Et aujourd'hui, ces assemblées provinciales, ils n'ont plus presque les mandats autorisés, parce que nous avons confié un mandat de 5 ans, et ils sont au-delà de 5 ans. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils doutent même de leurs actes à poser, et ils commencent à naviguer à vue. Maintenant, le vice-premier ministre de l'Intérieur, je ne sais pas s'il s'intéresse de savoir ce qui se passe au Congo central. Lorsqu'une assemblée telle que la nôtre, qui est inactive, qui constate les impayements, la société, la cohésion sociale en train de se défenestrer, de se désorienter, et il n'y a absolument rien. Dans tout ça, on renforce encore la crise au sein de ces institutions. Ce qui signifie que les députés eux-mêmes ne se retrouvent pas, le gouvernement national avec les ministres de l'Intérieur ne se retrouvent pas, et c'est le désordre. Je vous dis sincèrement que si ces députés, on avait des députés responsables, on ne peut pas autoriser de vivre dans cette communauté ici où les impayements, et qui votent le gouverneur, mais incapables de faire partie du gouverneur, et les patrons, les détenteurs du pouvoir même, sont pas capables d'agir avec force sur le gouverneur, qui gère très mal le pays. On ne comprend plus rien. Et c'est comme ça que ces assemblées subissent les influences des ministres de l'Intérieur qui arrivent de temps en temps à imposer un comportement. Et lorsqu'ils perdent leurs intérêts avec le gouverneur et le président de l'Assemblée, lorsque eux, les députés, ne se trouvent pas, seulement le gouverneur et le président de l'Assemblée se trouvent, à ce moment, ils viennent présenter des motions. Non, je crois que ce n'est pas intéressant de vivre comme ça. Moi, j'ai toujours défendu qu'on puisse faire partir tous ces gens, suspendre la loi, les articles qui continuent à maintenir ces députés en fonction dans notre pays. Parce qu'ils ne savent pas travailler pour le bien des peuples qu'ils ont élus.
Merci beaucoup, Ernest. Vous estimez d'ailleurs les députés provinciaux avec un mandat largement dépassé, et vous dites au Congo central, d'ailleurs, ils hésitent, ils ne savent même pas, et ils doutent même des actes qu'ils doivent poser. Les mêmes qui ont élu le gouverneur ne sont pas en mesure de le faire partir quand le gouverneur, quand ils sont impayés autant. Et pour vous, c'est la faiblesse des assemblées provinciales, de ces députés provinciaux qui fait aujourd'hui que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur puisse prendre des décisions pour réguler ce qu'ils font. font, parce que même on se rend compte qu'ils sont faibles. Alors nous allons écouter le point de vue d'un juriste dans cette émission, parce qu'il y en a qui ont estimé que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur n'a pas le droit d'interférer, n'a pas le droit de suspendre le fonctionnement de ses assemblées provinciales. D'un côté, notre ami Chico tout à l'heure disait qu'il a raison, il a compétence vu la manière dont les assemblées provinciales fonctionnent et surtout la non-maîtrise des procédures. Alors, Maître Adrien, merci de nous avoir rejoint dans ces débats. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Pierrot et la Menji. Bonjour à tous les amis auditeurs.
On vous écoute.
Oui, merci Pierrot. Je commence par répondre à la question. Si le ministre de l'Intérieur a le pouvoir donc de suspendre la plénière ou bien le fonctionnement d'une assemblée provinciale, il est vrai que lorsque nous lisons la loi sur la libre administration des provinces, à partir de l'article 33 jusqu'à l'article 37, il y a un couloir qu'on donne en matière de collaboration entre le pouvoir central et les provinces. Mmh. Donc c'est sur base de ces articles-là, donc si je ne me trompe pas, l'article 37, qui donne une certaine possibilité au ministre de l'Intérieur d'intervenir lorsque la sécurité donc d'une province est menacée. Dans le cas sous examen, lorsque je prends l'interdiction de deux assemblées, je commence par l'assemblée du Kasaï. Pierrot, je pense que c'est injuste, hein, donc c'est une décision injuste teintée de sentiments dans le chef du ministre de l'Intérieur. Comment pour trois députés, parce que ce sont ces trois députés-là qui ont causé des troubles. Ces trois députés-là sont connus et sont identifiables. Ces trois députés-là étaient déchus et eux-mêmes ont suivi la voie de la raison en saisissant la Cour constitutionnelle. Pendant que la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée, mais parce qu'ils ont vu donc leur parrain politicien à Kinshasa, il est dit, non, rentrez, comme c'est la rentrée donc parlementaire, vous allez vous imposer, et ils viennent, ils créent des troubles, et par rapport aux trois députés, on suspend donc l'Assemblée. Donc par rapport à cette Assemblée-là, c'est d'une manière injuste. Mm-hmm. Maintenant, lorsque je prends la question de l'Assemblée du Tanganyika, donc là, noir sur blanc, c'est tout à fait normal. Là, nous rendons compte que la sécurité était véritablement menacée. Oui. Parce qu'il y a deux présidents. L'un qui se présente, il prononce son discours. Après, le deuxième vient aussi. Donc là, c'est tout à fait normal. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est comme mon ami Ernest a été un peu défaulé. Nos députés provinciaux, par moment, lorsque je prends les députés provinciaux du Kasaï central, ils sont dans une fossée avec la population. Vous allez vous rendre compte que nous nous sommes rendus compte que ce sont ces députés-là qui ne veulent pas le développement de cette province. Lorsque Trésor Kapoukou venait d'arriver, il à peine même donc de fouler ses pieds, il y avait déjà une motion. Dieu merci, il a été sauvé. Mais il a travaillé avec beaucoup de stress, parce qu'à tout moment, il y avait toujours des menaces de motion. Il n'a pas su donc mettre en application intégralement son projet du développement de la province. Hubert Kabasubabu est arrivé pas même une année. Il a été donc renversé par une motion. Nous connaissons donc les tenants et les aboutissants. Donc son programme est allé dans l'eau. Kande Mupomba est arrivé avec un projet très ambitieux pour le développement et le désenclavement de la province. Au jour d'aujourd'hui, Pierrot, on peut organiser même des micro-baladeurs. Vous allez vous rendre compte que sur 100% de la population, peut-être 99% de la population regrette les choix des députés. Donc c'est comme ça que nous, de la CAGE, lorsque nous avions raisonné autour de ça, mm-hmm. nous sommes dit que les députés sont des émanations de la population. Mais lorsque les députés commencent à prendre les décisions donc à l'encontre de la population, donc ça ne sert plus à rien et que ces députés-là soient là. C'est comme ça que nous avions adressé une lettre ouverte au chef de l'État dans sa compétence de dissoudre tout simplement donc les assemblées provinciales, parce que ces assemblées provinciales mettent en difficulté les gouvernements provinciaux. Lorsque vous prenez ce qu'on reproche au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je pense qu'il faut être peut-être de mauvaise foi. Est-ce qu'il appartient au président provincial de payer les députés? Lorsqu'on dit que non, non, on ne paye pas, c'est comme si c'était un cas particulier. Or, tous les députés provinciaux savent que c'est un cas général. Est-ce qu'il faut faire partir quelqu'un par rapport à ce motif-là? Donc, c'est comme ça que, moi, je pense, sur le plan juridique, il y a donc l'opportunité accordée au ministre de l'Intérieur, mais donc sous condition lorsque la sécurité ou la paix est menacée. Mais dans les cas où le ministre a donc met un peu trop de son pouvoir pour agir en suspendant des ordres, non, ça n'a pas lieu. C'est comme ça que moi, au jour d'aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de connaître au sein de notre province, et la population se pose la question, nous aurons le gouverneur quand et pour combien de durées? Et qu'est-ce que ce gouverneur-là viendra? Parce qu'il viendra avec son projet. C'est ce qu'un député me disait ici, que Intungende ni motion Mouchibombi, soit gouverneur, soit ministre. C'est-à-dire, je marche avec la motion dans la poche pour intimider le gouverneur ou bien le ministre. Mais est-ce que vous voulez que
Voilà. Et là, il se pose un véritable. Merci beaucoup, maître Adrien. Il se pose un véritable question de moralité. C'est pourquoi vous l'avez dit. C'est une question sérieusement de moralité. Et Félicien, vous êtes ici à Kinshasa. On retourne dans la capitale. Quand on dit un député dit à quelqu'un que voilà, je suis qu'il avec la motion dans la poche. Alors dès que tu te présentes, tu as de la motion. Puis on te fait peur avec ça. On a vu des motions qui menacent les présidents des assemblées provinciales. On se retrouve un peu dans cette confusion. Et après, chaque fois que le ministère de l'Intérieur intervient, n'est-ce pas, dans ce qui se passe dans les assemblées provinciales, alors on se rend compte qu'il y a encore un problème sérieux de la maîtrise de ce qu'on doit faire, mais de cette question aussi de la moralisation de la vie politique. Félicien, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les autres de Radio Okapi. Ici nous avons un problème d'abord, un problème d'homme dans ce pays. Et en plus de ces problèmes d'hommes, nous avons, je pense qu'on a mal raisonné et on a placé du tout la charrue avant le bœuf. Donc cette réforme ou ce projet de la décentralisation convient bien dans des pays démocratiques. Et nous, on devait d'abord chercher à avoir un état de droit où la loi est au-dessus de tout le monde. Et comme ça, les assemblées provinciales pouvaient bien fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, pour faire partie quelqu'un, il faut qu'il manque de soutien, ou bien qu'il perde le soutien de ses parrains ou de ses maîtres. Mais les députés provinciaux n'ont pas vraiment le pouvoir. Ils viennent de réussir à Kinshasa après 10 ans. C'est parce que ceux qui soutenaient le président Tsing l'ont abandonné, l'ont lâché, sinon ils ne pouvaient pas le faire. Alors dans un pays où même les ministres ou le président du parti au pouvoir peut même annuler la décision de la Cour constitutionnelle, vous comprenez, nous sommes presque comme dans une jungle là, donc c'est pas là où vous voulez qu'on applique une démocratie avec les assemblées provinciales. C'est normal que le ministre de l'Intérieur intervienne intempestivement à gauche, à droite. S'il n'était pas un ministre puissant, lui aussi, il ne pouvait pas faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il a le soutien des chefs. C'est pourquoi il peut se permettre tout cela. Donc moi, je pense que on est un peu dans une photocopie de la gestion d'un État, et nous devons nous forcer pour arriver à un État véritable, une gestion véritable, une gouvernance véritable pour un pays qui est de gorge de richesse, et que nous commençons à vivre une vie normale et qu'on nous envie par les autres. Arrêtons bien avec tout ce que nous sommes en train de faire là, parce que c'est pas dans l'intérêt du pays et de la population.
Alors, est-ce que le Félicien, c'est quand même aux hommes de pouvoir s'adapter et suivre la loi? C'est pas d'adapter la loi en fonction des niveaux de maturité des hommes ou de leur capacité d'adaptation?
Non, mais écoutez, les lois, nous avons des lois, mais ces lois-là, on ne les respecte pas parce que ici, chez nous, c'est l'homme est au-dessus de la loi, ce n'est pas la loi qui est au-dessus de tout homme. Et donc, nous devons arriver à avoir un état de droit. Or, l'état de droit, c'est un problème de volonté politique. Quand nous sommes là avec des gens qui ne veulent pas que nous puissions entrer dans la vraie démocratie. Et hier, on était là dans la Deuxième République, on était dans la dictature, on a chassé les dictateurs. Aujourd'hui, on a une constitution, on a dit, on a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et aujourd'hui, ça commence à poser des problèmes. Ce sont des individus qui ne veulent pas. Mais il faudra que tous les restes qui sont de bonne volonté, les restes de la population, se mobilisent pour que nous puissions changer notre façon de gouverner le pays en intérêt de tout le monde. Mais c'est pas un problème de loi. La loi n'a rien fait, mais les gens sont là, ils respectent pas. Et vous voyez un peu ce qu'on fait avec les décisions, les arrêts de la Cour constitutionnelle. Moi, à la place de ces juges-là, j'ai démissionné. Pourquoi est-ce qu'on peut ridiculiser même la Cour constitutionnelle? Un individu, un ministre, il vient, il annule la décision de la Cour constitutionnelle. Alors, nous sommes dans quel état? Nous sommes où? C'est ça que moi j'appelle photocopie de la gestion d'un état, mais pas vraiment la gestion d'un état.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Félicien. C'est une question de volonté politique d'individu et de cette volonté de vouloir vraiment construire un état de droit véritable. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
On vous écoute, Marie-Paul.
Oui, il faut noter que les drames pour les dirigeants congolais, c'est le phénomène individu-État. Et les capacités pour ces dirigeants de pouvoir dissocier leur rôle individuel et aussi à celui de l'État est la cause principale de leur échec. Aujourd'hui, on va voir les individus qui sont des représentants des États, ils se comportent comme eux-mêmes sont devenus des États. Et lorsqu'ils posent des actes, leurs cousins, leurs familles posent les actes comme si eux aussi sont devenus des États. Et voilà pourquoi les développements, la situation de la RDC ne change pas. C'est ça, d'ailleurs, qui fait à ce que la société congolaise n'avance pas, les choses n'avancent pas. Parce que nous sommes dans un environnement, dans un état où les gens se comportent comme des états. Ils posent des actes, ils se comportent comme l'état n'existe plus. La transparence, la gouvernance, ça tombe en faillite. Pourquoi? Parce que les états, les individus se confondent. Alors cette confusion-là ne permet pas que nous puissions avancer. Nous sommes en train de faire les cercles viciés. Où vous allez voir tel dirigeant passe, il se comporte à un moment et la situation n'avance pas. Nous faisons les tournants dans l'infernal. Ce qui est grave pour la société congolaise, on se demande, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avancer. Et voilà.
Merci beaucoup. Merci Marie-Paul. Vous l'avez dit avec insistance que le problème aujourd'hui, c'est la confusion entretenue par des individus qui confondent leur rôle, leur poste avec l'État. Valérie, vous êtes ici à Kinshasa. On a connu ça, on a eu le parti État, ça fonctionnait comme ça. C'est vrai que on garde encore les stigmates, n'est-ce pas, dans l'attitude, dans la façon, la gestion même des partis politiques, des entités. Mais il faut quand même qu'on arrive à nous adapter à l'évolution de cette décentralisation que nous avons voulu. Comment on peut y arriver, Valérie? Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci. Pour y arriver, c'est simple, mais ce qui est simple est rendu difficile par la mauvaise foi. Ce qui est simple, c'est quoi? C'est de reconnaître que l'État est au-dessus du peuple, c'est tout. C'est de reconnaître que quand on exerce une fonction, c'est comme quelqu'un qui est engagé dans une entreprise. Être engagé signifie être inséré dans la classification des emplois. C'est ça aussi occuper un poste politique. C'est être inséré dans l'ordre de la hiérarchie de la République. C'est tout ce qu'il faut, que les gens comprennent ça, c'est tout. Mais lorsque les gens viennent avec leurs sentiments pour nous les imposer, c'est là où ça ne va pas. Vous remarquerez, je vais vous parler un peu de l'article 1er de la Constitution. Je vais le lire, mais ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus sa localisation. Pourquoi ce prescrit-là fait seulement l'objet de l'article 1er? L'article 1er dit ceci. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État, trop de qualificatifs là, un État de droit, indépendant, souverain, uni et individuel. visée de social, démocratique et laïque. Alors, vous remarquerez que cet article exprime la vision du peuple congolais. C'est comme si on peut le lire en d'autres termes en disant que le peuple congolais a comme vision bâtir un État qui est un État de droit indépendant, souverain, uni, indivisible, social-démocratique. Deuxième constat, de tous ces adjectifs qualificatifs qui sont collés à l'État congolais, il n'y a que l'adjectif qualificatif souverain qui est expliqué par la section 2, article 5, en disant que la souveraineté nationale appartient au peuple et on continue. Tandis que les autres sont faciles à comprendre de par la grammaire. Alors, mon frère, qu'est-ce qui se passe au juste? Il y a un climat malsain au sein de la majorité présidentielle. Ce sont les conflits de la majorité présidentielle qu'on nous transpose dans la vie des Congolais. Madame la majorité présidentielle, le peuple congolais ne s'identifie pas à vous. Laissez le peuple tranquille. Réglez vos litiges entre vous. Ce sont les désordres de la majorité présidentielle. C'est comme qui dirait en politique que la révolution bouffe ses premiers fils. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est quand ils ne s'en rangent pas entre eux, qu'ils viennent maintenant couler ça à la place publique. Ce n'est pas normal, c'est du désordre. Lorsque on va suspendre des gouverneurs, remarquez bien que tous les gouverneurs qui viennent d'être remplacés, boutés dehors par les assemblées provinciales, ce sont des gouverneurs qui ont été bloqués à Kinshasa. Dès qu'il y a une motion, les ministres de l'Intérieur les appellent à Kinshasa. Mais je crois que les provinces sont dotées d'une personnalité juridique. Ça, c'est l'article 2 de la Constitution. Même tel que Maître Adrien vient de le dire, qu'on a donné une ouverture au ministère de l'Intérieur, à condition que cela menace la sécurité. Mais ce n'est pas à tout bout de champ. En fait, j'ai l'impression que le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, c'est arroger un pouvoir au-delà même du pouvoir constitutionnel.
Alors, pour permettre, oui, Seigneur Valérie, il faut permettre à Ifaso, qui est en mandat, d'intervenir alors qu'on a une minute 45 secondes. Vous avez dit, pour vous, vous estimez que la plupart de ces questions entre les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales, c'est une question de mésentente au niveau de la majorité présidentielle. Beaucoup de gouverneurs, rappelons quand même que la plupart des gouverneurs déchus, hein, ils sont de la majorité, les assemblées provinciales de la majorité. Et pour vous, ce sont des conflits internes au niveau de la majorité qui sont transposés sur la place publique. On va terminer avec vous, Ifaso. Vous êtes à Mbandaka. En 1 minute 30 secondes, hein, vous avez suivi les uns et les autres votre point de vue.
Oui, bonjour Radio Kapi, bonjour à tout le monde. Oui, je vais commencer par parler par rapport à la motion qui a touché le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Moi, je ne pense pas que le président de l'Assemblée provinciale gère l'argent de l'Assemblée. Il y a un caissier qui est là chargé de gérer l'argent. Et lorsque les finances de l'Assemblée sont gérées, ce n'est pas seulement le président lui-même à l'unanimité. Il gère ensemble avec les membres du bureau permanent. Et je ne trouve pas là où les députés peuvent seulement introduire une motion de défiance contre le gouverneur, le président de l'Assemblée. Ça, c'est faux. Là, tout le monde est sans ignorer qu'il y a déjà une main noire. Et c'est la majorité présidentielle, comme mon précédent vient de le dire, nous déplorons tous le comportement de la majorité présidentielle. Mm-hmm. Lorsqu'ils trouvent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas, ils rétorquent là-bas, les députés se laissent manipuler à n'importe quel moment pour faire tout ce qu'ils peuvent faire. Le problème des cassas et des suspensions des assemblées provinciales, journalistes, je me pose les questions. Et quand j'ai suivi, c'est tous les intervenants qui posent la question si Chadar s'effondre sur quelle base. Je ne sais pas si dans la Constitution, ça le donne les dispositions de suspendre une assemblée provinciale. Le fonctionnement.
Et si vous d'ailleurs, vous avez suivi tout à l'heure Maître Adrien, il a dit qu'il y a un couloir, c'est au cas où on se rend compte qu'il y a une activité qui paralyse ou qui menace la paix et la sécurité, le ministre de l'Intérieur peut intervenir, c'est un peu dans ce sens. Merci quand même, Ifaso, merci à vous tous qui êtes intervenus dans cette émission Parole aux auditeurs.
Allô? Mais, ils ne répondent pas?
Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalamba et Pierrot Elamé. Je vous l'ai présenté sous la supervision de Martin Sebujangwe. On se retrouve le lundi pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie des Radio Capi. Mais vous allez retrouver cette émission sur www.radiocapi.net. Mais les débats se poursuivent sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci. Au revoir.